Chapitre 10. Accablée souvent intérieurement et rebondissant au moindre espoir, elle cherchait sans découragement apparent. Avec son don de plaire, elle recevait parfois des propositions qui l'indignaient, mais batailleuse lorsque c'était nécessaire, elle savait se défendre. Ces jours-là, en rentrant rue Cassini, elle parlait avec indignation de l'espèce humaine. « Je ne la croyais pas si laide, c'était écœurant !»« Laisse tomber, regarde ailleurs !» répondait le bon Loral. « L'espèce humaine est variée. »« Je n'ai qu'à me tourner vers vous pour m'en douter. » »« Et les amis ? Des amis, par exemple, comme les Paulins que tu aimes tant ?»« Oh, ceux-là sont uniques !» Enfin, dans un magasin moyen, elle trouva une place de dactylographe bien peu rémunérée, des émoluments à peine suffisants pour s'habiller et vêtir ses enfants. Elle accepta cependant, elle accepta avec regret, bien que, dans sa pensée, l'emploi fût provisoire. La question importante de tenue extérieure ne cessait de l'inquiéter. Autrefois, comme tant de jeunes filles, elle s'habillait coquettement avec rien, mais ce temps était loin et elle ne savait comment répondre aux nécessités nouvelles. Avec sa mère, elle s'ingénia à simplifier les toilettes de haute couture qui lui rappelaient ses heures de prospérité et, plus d'une fois, l'aiguille en main, elle refoulait ses larmes pendant que Madame Loral l'observait furtivement. Un jour, rentrant chez elle après plusieurs démarches décevantes, elle reçut la visite de l'amie très religieuse qu'elle n'aimait pas. Madame Céline M. était de ces bonnes âmes qui, en théorie, transforment pour les autres les épreuves en joie. Au premier mot dans ce sens, Frédéric se hérissa. « Si la ruine et ses conséquences sont des épreuves satisfaisantes, ruinez-vous, vous monterez ainsi au ciel. »« Comment ? Qu'est-ce qui vous prend, Frédéric ? J'essayais de vous encourager et il ne s'agit pas de moi. » S'il s'agissait de vous, votre langage serait différent, croyez-le bien. En vérité, vous devenez singulière, car mon intention était bonne, je vous l'assure. Je le crois, répondit Frédéric, aussitôt désarmé, étendant la main à son ami. Mais cette intention s'est trompée de route. Madame M. partit, aussi mécontente que déconcertée. Tu l'as offensée, dit Madame Loral à sa fille. Offensée? Que dois-je dire, moi, qui, veuve, ruinée, à votre charge avec deux enfants, l'entends me parler de mes malheurs comme d'une épreuve aimable ? Tu exagères sa pensée. Sa pensée m'irrite. Je m'en aperçois. J'ai vu aussi avec quel dédain elle regardait notre installation. Elle ne reviendra pas, cette sainte, ne serait-ce que pour n'être pas reçue dans une pauvre pièce de rien du tout, car c'est ainsi qu'elle la juge. Allez ! Quelle personne ne reviendra pas ? Demanda Loral, qui entendit ces mots en ouvrant la porte. Elle raconta la conversation à son père. Elle a cru bien faire, mon mignon. Je n'accepte pas qu'on me dise que je suis heureuse, parce que je suis malheureuse. C'est idiot. Elle se calma en relisant une lettre d'Irène. Elle, au moins, n'est pas stupide, et pourtant elle est extraordinairement religieuse. Écoutez ce qu'elle m'écrit. Nous aurons probablement à vous proposer un travail qui vous conviendrait. Dans peu de temps, je vous écrirai à ce sujet. Notre pauvre tante disparue nous a longuement parlé de vous dans ses lettres. Je vous sais si courageuse que je vous admire. Ces phrases paraîtraient banales à des indifférents et le sont cependant un peu plus réconfortantes que les sornettes de Céline qui n'a même pas l'idée de m'aider à me débrouiller. Naturellement, du reste, puisqu'elle juge que je dois être heureuse. Allons, allons, laissons cela. Ne sois pas impressionné à ce point par une maladresse. Ton amie Irène ne rentrera pas bientôt à Paris. Je la voudrais auprès de toi. Oh non ! Monsieur de Paulin est plongé jusqu'au cou dans un sérieux travail de recherche. Il prépare un ouvrage historique et n'a fait que toucher barre à Paris quand il est venu aux obsèques de sa tante. Irène attend un enfant et ne peut pas voyager. Ils sont fixés à Rome pour plusieurs années. Je ne dois compter que sur moi-même. Elle parle d'un travail à te proposer. Quel peut être ce travail ? Son bon cœur veut m'encourager, je crois. Peut-être voit-elle pour moi un débouché. Ils ont ici beaucoup de relations dans différents milieux. Mais elle est loin. 6 mois auparavant, Frédéric avait pris son poste de dactylo avec un semblant d'entrain qui tomba immédiatement. La vulgarité des gens qui l'employaient la révoltait. « Si encore ils étaient bons, disait-elle à son père, mais ils ont un affreux caractère qu'aucune éducation ne rectifie. » Elle ne pénétrait pas dans le bureau où choses et gens étaient terriblement communs sans se sentir déprimée. Alors, mieux que jamais, elle comprenait l'horreur de Fabien pour son appartement vulgaire et s'apitoyait rétrospectivement sur la souffrance qu'il avait éprouvée. Cependant, son travail, bien que très médiocre, l'aidait, comme tout travail, à se maintenir en équilibre, quoique l'insuffisance du traitement l'obligeât à persister dans ses recherches. « Moi, disait-elle à l'oral, je me procurerai toujours de quoi manger. » Mais ces pauvres petits, dont je voyais l'avenir si brillant. Elle ne pouvait se résoudre à envoyer ses enfants dans une école gratuite et entreprit, avec l'aide de son père, de continuer leur enfantine instruction. Plus tard, on verra. Allons au plus pressé, afin qu'ils n'oublient pas ce qu'ils savent déjà. En les voyant un peu pâlis, en les écoutant parler de l'existence où tout leur souriait, elle songeait aux enfants du Capitole qui mangeaient leur pain sec avec des orties cuites. Elle songeait aux petits Napolitains en haillons, se rappelant que, dans ces deux circonstances, elle avait la conviction profonde que ses fils ne connaîtraient jamais la misère. « Ils en sont bien près de la vraie misère !» se disait-elle lorsque, ne dormant pas, elle cherchait une solution à sa situation déplorable. Elle se rappelait souvent que, dans le forum de Pompéi, elle avait eu l'idée subite que M. d'Hautefort aurait une heureuse influence sur sa vie en interrompant la course vertigineuse de son mari, et l'événement avait brisé son espoir. Elle ne croyait pas M. d'Hautefort, homme à oublier, mais il n'écrivait plus, et que pourrait-il? Toutefois, elle aimait à se reposer sur l'idée bienfaisante qu'il avait frappée comme une flèche. L'humanité me paraît bien laide depuis quelque temps, écrivait-elle à Madame de Paulin, malgré une amitié comme la vôtre, chère Irène. Je crois aussi à l'amitié fidèle de M. d'Hautefort, quoiqu'il ne m'ait écrit qu'un mot assez conventionnel en apprenant la mort de mon cher mari. Je n'avais rien répondu, j'étais si lasse. Mais je sais que votre ami est vibrant quand on fait appel à sa bonté. S'il était à Paris, il m'aiderait de ses conseils, son intérêt seul serait un réconfort, et peut-être me découvrirait-il un travail moins déplaisant que mon travail actuel, si ingrat. Dans un milieu si affreusement trivial. Que je suis loin de nos conversations dans la Rome antique, loin de vos chères invectives. Vous me parliez d'un travail qui me conviendrait, je voudrais bien le connaître. Ce fut quelque temps après, au retour d'un voyage qui s'était prolongé bien au-delà de son premier projet, que M. d'Hautefort trouva dans le courrier qu'il attendait à Blida une lettre de la vieille Madame de Paulin et l'annonce de sa mort. « Mon cher Gerbert, c'est la dernière fois que je vous écris, je suis si vieille, bien malade en plus de ma vieillesse. Lorsque vous rentrerez en France, je serai partie pour le pays des ombres, ainsi l'appelle-t-on. Moi je dis pays des lumières. Je profite d'une détente dans mon état pour vous parler de Madame d'Auzac. Vous m'avez écrit, il y a longtemps déjà, que vous connaissiez par un journal la mort de M. d'Auzac, mais le journal ne vous disait pas que sa disparition avait été précédée d'une ruine entière. Effondrement complet, tout a été vendu, et la pauvre femme, avec ses deux enfants, vit chez ses parents. Comment vivent-ils? C'est un problème. Ils sont 5 dans un logis fait pour 2. Avec son souple caractère qui tient tête à l'orage, Madame d'Auzac m'a déclaré « Nous sommes encore heureux d'avoir un toit pour nous abriter et mes parents sont si bons. » Mais j'ai bien vu que son sourire n'était qu'une expression de son courage. Comment ne souffrirait-elle pas, même matériellement, après la vie séduisante que nous lui avons connue? D'autre part, j'ai lieu de croire que le souvenir de son mari laisse à cet enfant plus d'une amertume. Vous avez bien fait de lui rappeler votre ancienne amitié pour M. d'Auzac, car elle m'a dit « Lui, au moins, ne doute pas de mon mari, pour qui tant de gens ont été si méchants. Il garde un bon souvenir de leur amitié. Je soupçonne qu'elle veut se leurrer elle-même sur la valeur morale de M. d'Auzac, mais qu'importe. Elle m'a beaucoup parlé de ses fils, de leur avenir, et s'exaspère de ne pas trouver assez vite du travail. Je l'aurais vu plus tôt, sans ma longue absence de Paris. Offrir un secours pécuniaire est impossible, ils ne sont pas gens à accepter de l'argent. » En même temps, un mot de ses amis de Rome apprenait à Gerbert la mort de leur tante. La lettre de Madame de Paulin réveilla chez M. d'Hautefort tous les sentiments engourdis par les années. Il voyait Frédéric souriante, aimable, lui venant en aide discrètement. Il la voyait sous les grands arbres de l'avenue de l'Observatoire, tout émue, toute peinée du chagrin qu'il s'efforçait de dissimuler. Il l'aimait tendrement alors et il l'aimait toujours. Peu à peu, ses souvenirs ressemblèrent à des rêves dispersés qu'il se plut à rassembler pour les méditer, les choyer comme un espoir. Il pensait à son propre passé, assombri par des déceptions qui jonchaient sa jeunesse envolée, et il s'apercevait qu'une fleur sortait de leur amas. Gerbert restait très jeune de cœur, bien que sa raison lui reprochât des élans presque naïfs qui l'entraînaient parfois à des générosités imprudentes. Peu lui importait, il aimait à semer. « Je l'aiderai d'une façon ou d'une autre », se disait-il en relisant la lettre, « et qui sait ? Cet espoir, tout vague qu'il soit, mon excellent ami l'avait en m'écrivant, j'en suis certain. » Il décida de rentrer en France. Auparavant, il voulut aller à Rome pour voir ses amis Paulin et arriva chez eux sans avoir prévenu. « Enfin, lui dit M. de Paulin, qu'avez-vous fait pendant tant de semaines où personne n'entendait parler de vous ?»« J'ai simplement voyagé. En arrivant à Blida, où l'on devait garder mes courriers, j'ai trouvé une dernière lettre de votre tante et votre mot qui m'annonçait sa mort. » Elle était bien malade, mais elle est partie presque subitement. Je n'ai pu qu'aller aux obsèques. Sa lettre, très nette, très bonne, n'indiquait pas qu'elle fût si malade. Pauvre et charmante amie. Quoique ému en parlant d'une femme qui avait été l'amie de sa mère et la sienne, il ne pensait qu'à Frédéric. Louis, avez-vous vu Madame d'Auzac lorsque vous êtes allé à Paris ? Je l'ai vue à l'église. Elle m'a serré la main et paraissait très émue. Malgré le peu de temps dont je disposais, j'aurais essayé de la rencontrer chez ses parents si je n'avais craint d'être indiscret et surtout de l'affliger en la retrouvant dans un modeste logis. Vous connaissez tous ces malheurs par notre tante ? Demanda Madame de Paulin. En gros, donnez-moi des détails. Pendant qu'elle lui parlait de Frédéric, des égarements de Fabien, de la réputation équivoque qu'il avait laissée dans le monde des affaires, Gerbert devint si songeur qu'elle s'arrêta brusquement. « Continuez, je vous prie. Vous n'aviez pas l'air de m'écouter. À présent, vous souriez d'un air heureux. Cependant, vous vous intéressez beaucoup à Frédéric. Son affreuse situation devrait vous toucher. » « Vous ne me croyez pas touché, » répondit en riant M. d'Hautefort. « Je rentre en France, précipitant mon départ de Blida, uniquement pour secourir Madame d'Auzac, et la pensée de l'aider me rend heureux. Voilà l'explication de mon sourire. » « La secourir n'est pas facile, nous en avons fait l'expérience, » déclara M. de Paulin. « Elle est très fière. »« Je le crois, mais j'espère que mes propositions n'alarmeront pas sa fierté. » »« Il lui faut du travail. Or, mon mari doit prendre une secrétaire. Ce sera Frédéric, si elle veut bien. » « Oh, la parfaite idée !» s'écria Gerbert qui saisit la main d'Irène et la porta à ses lèvres. Elle ouvrit de grands yeux et se tourna vers son mari. « Vous voyez, il l'aime. Votre tante s'en doutait, mais vous ne vouliez pas le croire. »« Je l'aime en effet, » affirma simplement Gerbert. « Je l'aimais avant son mariage. Ni le mariage, ni les années ne m'ont guéri. » « Eh bien ?»« Eh bien, il faut marcher doucement sur un terrain délicat. » Pourquoi délicat ? Tous les jours, des veuves se remarient. Elle m'eût refusé autrefois, je le sais, parce que je suis infirme. Infirmité qui n'est pas très gênante, vos voyages le prouvent. Ensuite, autrefois ou à présent, quelle différence ? Frédéric n'a plus 20 ans et elle souffre. D'Hautefort parut acquiescer, mais il poursuivait son idée. Je l'observerai. Si elle vient ici, et elle viendra certainement, comment ferez-vous pour l'observer ? J'y viendrai moi-même. Voilà une résolution que j'approuve entièrement, lui dit M. de Paulin. Il n'existe pas de meilleur endroit pour tisser son bonheur. ajouta Irène, enchantée. Une mélancolie subite s'abattit sur M. d'Hautefort, ses craintes de jadis s'éveillaient. Tissez son bonheur, vous allez trop vite, ma pauvre Irène. Vers les mêmes jours, Frédéric revint rue Cassini après avoir rompu avec les commerçants qui l'employaient. Je ne pouvais plus les voir. De plus, ils se sont permis des observations sur ma toilette. Je les ai envoyés promener. Le pauvre Laurent avait fait plus d'une démarche sans espoir d'aboutissement et ne savait s'il devait approuver la décision de sa fille. Ils se concertèrent une partie de la nuit avec un certain découragement, malgré les efforts de Frédéric pour prouver qu'elle avait eu raison. « Les forces ont des limites !» répétait-elle. Le matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, le facteur apporta une carte postale de Rome, deux lignes de Madame de Paulin qui apprenait à Frédéric l'arrivée de M. d'Hautefort. « Il part demain et précédera peut-être ma carte. À bientôt une longue lettre. » Frédéric, immobilisé, regardait son père d'un air perplexe. « Qu'as-tu donc, ma chérie ?» Monsieur d'Hautefort arrive ou est arrivé. Tant mieux, excellent ami pour ton mari, il l'est pour toi. Il se souvient de son attrait pour ma fille. Pourquoi t'en es inquiet? Monsieur d'Hautefort, j'en suis convaincu, voudra me rendre service, mais que ne donnerais-je pas pour obtenir, avant de le revoir, une promesse de travail sérieux? Où l'a trouvée cette promesse? Demain, je retournerai au ministère des Travaux publics. Mon ancien chef direct sera là. Il m'appréciait, vous le savez. J'essaierai encore de l'intéresser à mon sort. Il le connaît, ce sort. Mal, j'ai adouci en lui parlant une première fois. Je le lui montrerai en noir. Mais que c'est dur, cher père, de solliciter, quand je pense à mon pauvre Fabien réduit à une telle souffrance. La démarche lui était si pénible que, le lendemain, elle flâna longtemps dans le jardin du Luxembourg, qui lui rappelait des souvenirs très doux, devenus très poignants. On ne respirait pas l'air enivrant du printemps, qui s'alliait si bien à la déclaration lointaine de Dauzac, mais les fleurs étaient abondantes, l'atmosphère chaude et bienfaisante. Trop préoccupée, elle vivait dans ses pensées sans rien remarquer, sans apercevoir Gerbert qui s'avançait vers elle et la fit sursauter quand il lui parla. « Vous, c'est vous, que je suis contente !» dit-elle avec sa spontanéité d'autrefois. « Un mot d'Irène m'avait appris votre retour. » « J'allais rue Cassini avec une vague idée de vous rencontrer ici. »« Sans attendre, vous veniez chez moi. Vous êtes bon comme toujours. Causons, asseyons-nous sur un banc. » Ils choisirent un coin abrité. Gerbert, qui observait la jeune femme, ne put cacher entièrement une pitié qui contraria et même blessa Frédéric.